clé secrète de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les âmes. Vous allez écouter, retrouver peut-être pour vous qui nous suivez depuis plusieurs semaines, ce grand livre cosmique qui tente de raconter l'histoire de notre univers, du Big Bang jusqu'à nos jours. Notre générique reprend la musique de Richard Strauss que Stanley Kubrick a mis au début de son film 2001, L'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, à partir d'un livre de Arthur Clarke. Pour ce grand voyage, au cœur de la naissance du monde, des étoiles, des planètes, de la vie, de nos cellules, des premiers animaux, en passant par les dinosaures puis les mammifères, nous sommes accompagnés et avec un grand talent par Michel Galliana Mingo, qui est aussi un vulgarisateur tout à fait performant. Il a publié un très bel ouvrage, Les clés secrètes de l'univers chez EDP Sciences, que je vous recommande très fortement. Michel, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors la dernière fois, nous avons vu l'apparition des premiers primates, puis vous nous avez donné toutes les caractéristiques communes à ces premiers primates, mais vous n'aviez pas tout à fait fini votre propos.
Oui, effectivement, c'est intéressant de voir que finalement les qualités qu'on prête à l'homme sont déjà présentes chez les primates à des stades souvent très embryonnaires, hein, comprenez-moi, mais déjà présentes. Alors, j'avais cité parmi ces qualités la position verticale, parce que même un chimpanzé vit une bonne partie de sa vie dans la position debout. La lenteur de la reproduction, un seul petit par portée, une période longue de dépendance de l'enfant. Ensuite, la vie en groupe, des petites tribus, entre guillemets, de 20 à 200 individus. L'utilisation d'outils rudimentaires, sans qu'ils soient transformés, hein, sans qu'il y ait de fabrication. C'est des outils qu'on prélève dans la nature, tels qu'ils sont. Un bout d'os, une pierre, etc. Une capacité de langage qui, curieusement, on reviendra sur ce point, est développée sur le plan intellectuel, puisqu'il y a des singes qui arrivent à mémoriser plus d'une centaine de mots, mais en même temps qui ne peut pas s'exprimer par la voix. Donc les singes qui apprennent et qui dialoguent avec des mots le font par les signes, comme le langage des sourds-muets, mais pas par la voix, parce que leur larynx, tout simplement, n'a pas la bonne conformation. Leur larynx ne permet que d'envoyer quelques sons gutturaux, un peu comme un aboiement de chien. Et dernière caractéristique qui est la plus importante, c'est la naissance très, très embryonnaire d'une forme de conscience, très, très embryonnaire. Là, c'est intéressant de savoir une chose, c'est que les mammifères sont très intelligents. Tous les mammifères ont un cerveau qui est fait de la même façon, avec un néocortex fait de 6 couches, comme le nôtre. Sauf que dans notre cerveau, il y a plus que ces 6 couches, il y a quelque chose en plus. Mais tous les mammifères ont déjà un cerveau très développé, ce qui explique qu'un tigre va avoir des tactiques de chasse, que les loups vont chasser en meute, que les marsouins savent faire ceci, cela. Nul doute que les mammifères sont très intelligents déjà. Mais ils n'ont pas la conscience. Alors, qu'est-ce que j'appelle cette conscience primitive ? C'est quelque chose qu'on détecte par le test du miroir. On place un animal devant un miroir, et là, il voit son image, et on observe son comportement. Alors, si vous placez un chat ou un chien devant un miroir, il va jouer avec l'image qui est devant lui, mais en fait, il va jouer avec un autre chat ou un autre chien. Il ne pense pas que c'est lui, parce qu'il n'a pas cette capacité qu'on appelle la conscience réflexive. Il ne considère pas que c'est lui, c'est un autre être. Alors que chez quelques animaux, et quand je dis quelques, on n'en connaît qu'une dizaine dans l'ensemble du monde animal, chez quelques animaux, il y a une capacité déjà de comprendre que dans le miroir, c'est soi-même. Comment le sait-on ? On emploie un truc, c'est qu'on place une petite pastille de couleur ou une tache d'encre, une tache rouge par exemple, à un endroit que l'animal ne voit pas, par exemple sous son menton, on ne peut pas le voir. Et on le met devant le miroir. Et lorsque l'animal voit cette tache, il est intrigué, il se demande ce que c'est. Et s'il passe le test du miroir, il va toucher cette tache en essayant de comprendre ce que lui a sous le menton, qu'est-ce que c'est. Alors que d'autres animaux, par exemple un chien, lui regardera la tache et sa réaction sera de dire « Tiens, ce chien que je vois dans le miroir a une tache ». Mais ça s'arrêtera là. Alors, quelles sont les 10 espèces qui passent le test du miroir ? Vous allez peut-être être surpris. On n'en connaît qu'une dizaine. Il y a 3 singes. Il y a 3 cétacés, dont le dauphin, bien sûr. Il y a 3 corvidés. Ça, c'est tout à fait étonnant quand on voit la taille du cerveau d'un corbeau. Alors, le corbeau, le geai, la pie sont les 3 corvidés qui passent le test du miroir. Et puis, il y a l'éléphant. Et en dehors de l'homme, bah, c'est tout. Alors, nos primates font partie, ou tout au moins 3 espèces parmi les primates. Hein, ce n'est que 3 espèces parmi 186, donc ça reste très très faible. Passent le test du miroir. Voilà, c'est une forme, une toute petite forme de conscience de soi. Alors, pour terminer avec les chimpanzés, je vais vous donner un chiffre qui interpelle beaucoup. Si vous comparez le génome du chimpanzé et le nôtre, il n'y a que 1,2% des gènes qui diffèrent. Nous avons les mêmes gènes que le chimpanzé à 99% près. Alors c'est pour ça qu'on utilise les chimpanzés pour tester les médications, hein. Mais c'est tout à fait étonnant, et ça veut dire qu'une poignée de gènes, nous avons de 22 300 gènes, donc si vous prenez 1%, ça veut dire 200 gènes, quoi. Eh bien, c'est une poignée de 200, entre 200 et 300 gènes qui fait toute la différence entre le chimpanzé et l'homme. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que c'était pas n'importe quel gène, c'était... dans les gènes, il y a des gènes qui servent à fabriquer des protéines, hein, pour faire fonctionner le corps humain, c'est la majorité. Mais il y a aussi des gènes qu'on appelle régulateurs, c'est-à-dire des gènes dont la seule tâche est de réguler le fonctionnement d'autres gènes. Ce sont un peu des gènes qui commandent, si vous voulez. Eh bien, c'est 1% de gènes qui sont différents entre l'homme et le chimpanzé sont essentiellement des gènes régulateurs, c'est-à-dire des gènes qui peuvent avoir des conséquences très importantes, et on le voit bien, puisque finalement, il y a quand même de grosses différences entre le chimpanzé et nous. Voilà. Mais tout ça, c'est une question de 1,2% des gènes.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous diriez, au fond, de ce que tout ça signifie dans cette émergence de la vie qui va, ça va être pour notre prochaine émission, donner l'apparition de l'homme.
Bien, je crois que on le constate lorsqu'on regarde toute l'évolution. Je vous le disais l'une des fois précédentes, l'évolution naturelle darwinienne ne privilégie pas forcément la complexité. C'est-à-dire que, par exemple, si dans une situation donnée, les bactéries sont extrêmement adaptées à leur environnement, eh bien, la sélection naturelle fabriquera des bactéries à l'infini. Et c'est bien ce qui s'est passé, puisque pendant 3 milliards d'années, il n'y avait que des bactéries ou des animaux monocellulaires. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas forcément une propension à créer de la complexité. En revanche, ce n'est pas un dogme absolu, c'est-à-dire que comme finalement la nature, on s'en rend compte aussi de plus en plus, l'évolution darwinienne, elle crée surtout de la diversité. Et donc, en créant de la diversité, à un certain moment, peuvent apparaître des espèces plus complexes. Et là, c'est un mouvement qui semble se prendre avec d'abord l'émergence des mammifères, qui sont quand même beaucoup plus complexes dans leur corps et surtout leur cerveau, beaucoup plus complexes que les dinosaures. Et parmi les mammifères, on voit apparaître les primates qui disposent de toutes ces qualités dont je parlais. Et parmi les primates, ça sera pour la prochaine fois, nous verrons émerger les australopithèques, puis l'homme. Donc là, on voit tout d'un coup un tournant qui est pris probablement. Alors évidemment, on peut dire que c'est une finalité qui doit aboutir vers l'homme, ça on peut tout à fait le penser. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est parce que dans le contexte de l'époque, l'intelligence et l'habileté se sont avérées des atouts majeurs par rapport aux autres espèces. Pour résumer, à l'époque des dinosaures, le plus fort était celui qui gagnait. Et peut-être dans un contexte différent, le plus subtil intellectuellement, sentir mieux que les autres.
Mmh. Oui. La loi du plus fort compte pendant très longtemps, puis ensuite la loi du plus malin peut lui permettre de tirer un avantage de son cortex. Au fond, c'est ça?
Tout à fait. Si vous regardez une vache, par exemple, réfléchissez, une vache, elle passe son temps dans les champs à brouter de l'herbe. A-t-elle vraiment besoin d'intelligence? Non. Si une vache émerge qui est plus intelligente que les autres, ça peut très bien arriver, hein, à la suite d'une mutation génétique, cette vache n'aura pas foncièrement un avantage compétitif. Donc, si on applique strictement la théorie darwinienne, elle ne donnera pas plus d'enfants qu'une autre vache qui est plus bête, parce que c'est un caractère qui ne lui sert pas. Mmh. Par contre, dans un milieu un peu plus complexe, l'intelligence va primer.
Michel, on va s'en tenir là pour aujourd'hui, et puis nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec l'apparition d'un étrange personnage qui va mettre aussi du temps pour nous ressembler, mais que nous connaissons. Voilà, Michel, un grand merci encore. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
À bientôt.
Et bonne semaine à tous nos auditeurs sur Radio Grand Ciel. Au revoir.